Parce que ça rappelle vraiment les grands procès du 18e siècle, genre il y a du sexe aussi et tout ça. Enfin, c'est pour ça que les journaux en parlent. Et oui, et c'est frauduleux, et c'est une banque, et c'est jugé à plusieurs endroits parce que les juges sont impliqués. Et donc on déplace le jugement. Et il y a des avocats super connus.
Il y a déjà le note 21 là où vous donnez des chiffres.
Oui, oui, oui. Voilà. En fait, on le fait pour les banquiers, ouais.
Donc les 5 banquiers, qui ont fait faillite cette année-là quand même.
Mais le problème, c'est que banquier, voilà, c'est que banquier, ça n'a pas de définition précise à l'époque, et donc ça peut être tout petit.
Oui,
mais
c'est
ça,
voilà. Non, mais c'est la remarque qui avait été de nous intéressante.
Ah oui,
c'est vrai qu'il faut bien d'accord. Mais en même temps, je suis pas complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut situer, c'est hyper intéressant de situer le cas dans un paysage. Mais de là à dire, ça serait plus facile à justifier si c'est un seul énorme procès qui a des retentissements et des conséquences législatives et tous les journaux nationaux en parlent, ou alors que c'est un parmi 250 qui sont les mêmes, là par contre je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire, je pense pas que là est plus important que l'autre, mais de toute manière que le regard micro, c'est en effet pour le situer, pour comprendre comment ça se situe dans un paysage général, on cherche pas à en faire un truc ni représentatif, ni qui est exceptionnel.
Mais c'est important de savoir s'il en est.
Mais derrière ça, il y a aussi une chose qui est vraiment importante à savoir, c'est quand est-ce qu'on met les gens en faillite. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en gros, on les met pas en faillite parce qu'on s'arrange entre soi. Et quand on les met en faillite, c'est en général qu'on a décidé de leur faire payer, parce que les gens qui les mettent en faillite savent que ça va leur coûter à eux beaucoup plus cher que de ne pas les mettre en faillite. Donc c'est pour ça que tout ce type de calcul, quelque part, me semble non pertinent, parce qu'il crée une réalité, lui aussi, qui n'est pas la bonne réalité. Donc je suis tout à fait d'accord avec votre troisième question, mais pas avec la première, parce que il faut rentrer dans les mécanismes.
Dans ce cas-là, il y a un sens, c'est une toute petite chose. Alors, la question, c'est que, est-ce qu'on fait l'histoire des choses comme une conséquence ou pas quoi.
Toute grande banque qui fait faillite, c'est pas une petite affaire. Et surtout, toute grande banque avec ce type de ramification, c'est pas une petite affaire. Si c'était des boulangers, oui, mais c'est pas des boulangers.
Mais je pense aussi que le procès était plus important pour le scandale que pour le changement de choses juridiques.
Mais c'est plus facile, je pense, d'avoir le paysage des procès à scandale, alors qu'il y a une très importante presse de chronique judiciaire, effectivement. Et donc, on peut voir s'il en parle beaucoup, et tout ça, ouais. C'est sûr.
Est-ce qu'il y a moyen de faire,
j'ai parlé un peu des clients, parce qu'il y avait beaucoup de clients RSC pratiques. Voilà, mais je n'ai pas accès. C'est une aspect très intéressant, parce que c'est peut-être vraiment les raisons pour lesquelles la banque a fait faillite. Mais oui, je n'ai pas.
Tu veux dire parce qu'il est remboursé pas.
Les investisseurs, après la révolution de 1830, ont décidé pour la plupart que Viviane n'était pas vraiment un banquier qui gagnait leur argent, donc je ne sais pas ce que je peux faire avec ça. C'est juste l'histoire.
Moi je me posais plus une question, enfin qui est liée à la question de la micro-histoire, mais sur la spécificité de la période ou pas, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu tout le temps, oui, cette opposition oui. entre le bon commerce et la méchante spéculation, ouais, c'est le nouveau, ça. Etc.
Ouais.
Et voilà, c'est ce qui n'est pas grave en soi, parce que c'est intéressant aussi si ça se retrouve tout le temps, mais je ne sais pas si c'est possible de... Même si, pour le coup, on connaît juste ce cas, quelques autres cas qui ont pu être étudiés par d'autres, de dire qu'est-ce qui serait spécifique de cette personne ouais. qui connaît quand même effectivement des fièvres spéculatives assez nouvelles et tout ça, mais qu'est-ce qui se rapporte à un discours qui est toujours le discours que tout le monde emploie dans tous les cas comme ça.
Je vais pas faire un lien avec la gestation de 1838, de la Blancabrique, de la faillite, mais je ne sais pas si je peux faire ça avec les sources de procès lui-même. Je ne sais pas comment je peux faire ça, mais je pense qu'il y a un lien entre la législation et ce procès.
C'est sûr que de toute façon, si on est dans une période où on est en train de réfléchir, il y a des tas de commissions, etc., à une nouvelle loi sur les faillites, un projet avec comme ça des avocats très connus, des banquiers très connus sont impliqués, forcément les gens doivent en parler, enfin,
ouais.
même de façon comme ça assez indirecte, ça participe forcément à l'atmosphère de discussion sur la loi, mais après plus précisément...
Si je voudrais voir la légalisation de quelques aspects de la faillite dans la législation de 1838 comme une espèce de moralisation, dans une manière. Parce que la législation de 1838 essayait de formuler dans une d'une manière les aspects plus informels de la faillite. Et donc je pense que cet effort de légaliser les choses peut dire quelque chose sur ce procès.
Est-ce qu'il y a eu des arguments explicites du genre les procès durent, non mais pas forcément sur cela, mais du genre les procès durent très très longtemps parce qu'on n'a pas de critères assez formels
oui,
ou
oui,
des gens
oui,
assez... parce que c'est une des choses frappantes quand même dans celui-là mais dans d'autres, c'est que ça s'étire sur des décennies en fait.
Ouais.
Donc je sais pas si cet argument par exemple de la longueur ou complexité des procédures a été partie de, importante de la discussion de la loi.
Ouais. Donc, cette histoire conduit à Rouen et pas à Paris. Est-ce qu'on a des problèmes avec parce que pour la plupart, ma thèse porte sur la situation à Paris parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour moi à faire des recherches ici. Et aussi, je pense que quand la législation est créée, elle est créée pour le marché parisien. Mais est-ce que je dois considérer les particularités de Rouen avec avec cette histoire en fait?
C'est vrai que c'est quand même une histoire qui se passe à beaucoup d'endroits différents aussi,
oui,
en fait. Enfin, c'est pas de la banque locale.
Mais c'est plutôt une création des banques de province, je pense.
Je sais pas sur...
Je sais que les choses peuvent arriver à Paris dans la...
C'est ça la question.
Oui. Et ça, c'est une question assez importante.
Le milieu est tout petit en province, et puis aussi petit à Paris pour l'interrogation, c'est ça la question.
Oui, mais est-ce que le fait que le milieu soit petit joue vraiment dans l'histoire, à part le fait qu'ils doivent accuser les juges parce qu'ils sont tous impliqués dans
Mais le crédit est limité à Rouen dans une manière, mais je ne pense pas que...
Il y a quand même 5 banquiers qui font banquier pour Rouen en 1830, donc c'est un petit peu
facile. Oui,
c'est facile.
Mais c'est sûr que Rouen, il y a une opposition quelque part très forte qu'on retrouve avec la fondation du Mont-Piété.
Oui.
Il y a une énorme opposition à fonder les Mont-Piété à Rouen parce que les marchands ont toutes ces affaires entre les mains et ne veulent pas qu'on les saisisse.
Ouais.
Donc ils n'arrivent pas à fonder les Mont-Piété à Rouen.
Est-ce qu'il n'y avait pas une spécificité rouennaise aussi au moment de... Le changement
dans
la Banque de France.
Oui. Ouais.
Exploser,
ouais, tout à fait, ouais. Il y avait une grande poire des banques de France. Je crois que c'était arrêté à 1800. Enfin, de toute façon, c'est quand même une des grandes places, y compris en terre. Mais c'est pas pour la province, c'est grand, mais c'est pas Paris, ouais.
Et à la Banque de France, il n'y a pas du tout de
source. Non, non, non. En fait,
j'ai
consulté des archives des banques de France, mais.
Mais pas du tout.
Je peux faire des recherches plus générales sur la situation à Rouen, mais en fait j'ai utilisé la recherche déjà faite de Guillaume Chaline, de Banque de Rouen.
Oui, et
en
fait, on
est
sur un territoire industriel.
C'est quand même un des lieux les plus connectés économiquement à Paris aussi, pour ce que j'en sais. Un des plus gros tribunaux de commerce, enfin, c'est pas petit. Non, ce que je sais pas, oui, c'est la question, c'est est-ce qu'à Paris, on aurait pu avoir quelqu'un qui fonde une banque avec pas de capital et qui,
oui, en fait,
là, surtout, acheter des terres et mais en fait, oui. Enfin, je pas de... Ce que je me demandais, c'est tout le point que tu refais sur le... Les gens n'ont en fait que l'objectif, c'est surtout d'acheter des terres et ça s'avère assez irrationnel, économiquement, etc. Ça, je sais pas si c'est autant vrai à Paris, à cette époque.
Je sais pas, je pense que
peut-être moins vrai. Voilà.
C'est
enfin,
la
première
industrie, c'est une spécificité du patronat normand.
Voilà. C'est peut-être la chose où en lisant, je me suis dit qu'on aurait moins trouvé ça à Paris, mais en fait, oui, on n'en sait rien parce que les seuls banquiers parisiens sur lesquels on connaît bien ce type de choses, c'est plutôt les très très grands qui font faillite aussi, d'ailleurs, par moment, mais pas de cette façon-là. Donc, je pense pas qu'il y ait d'études sur la moyenne banque parisienne ou type sociologique, quoi, où on puisse savoir si les gens, ils ont tendance à se retirer à la campagne quand ils sont vieux ou...
Surtout, c'est pas très évident à l'époque. Mais je pense quand même que peut-être que les rapports de la succursale de la Banque de France de Rouen, en lecture directe,